Devenez sensible au bruit des jupes. Connaissance. Qu'est-ce que c'est que la connaissance sensible? Et les diverses modalités de la connaissance sensible. Quelque chose de particulièrement important. Parce que la connaissance sensible reste pour nous la connaissance la plus immédiate. C'est pour ça qu'on commence par la connaissance sensible. Descartes fait l'inverse, vous comprenez bien. Descartes commence toute la connaissance par le problème du cogito. Connaissance intellectuelle dans le réalisme aristotélicien. Nous commençons au contraire par la connaissance sensible, parce que c'est la connaissance sensible qui de fait est la première génétiquement. C'est sûrement la connaissance sensible qui a été première dans l'évolution et le développement de notre connaissance. Rappelez-vous la première sensation que vous avez eue. Si vous pouvez vous rappeler, c'est dans de la connaissance sensible, la première vision que vous avez eue, le premier toucher que vous avez eue. Et maintenant, puisque ce n'est pas l'enfant qui fait de la philosophie, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire quand on est arrivé à un âge comme une adulte, quand je réfléchis sur ma connaissance, je m'aperçois tout de suite la très grande diversité de mes connaissances. Et je reviens toujours à la connaissance sensible parce qu'elle est toujours présente. Toutes mes connaissances impliquent ma connaissance sensible. Même quand j'essaie de faire de la métaphysique, que je m'élève très haut, l'imagination est encore présente. Et saint Thomas dira que même dans les connaissances mystiques les plus élevées, il y aura toujours un conditionnement nécessaire de l'image. Je ne peux pas me séparer de la connaissance sensible. Je suis entièrement conditionné par ma connaissance sensible. Je ne dis pas déterminé, conditionné. Ma connaissance sensible est toujours présente dans tout le développement de ma vie intellectuelle, spirituelle. C'est pour ça que la connaissance sensible joue un rôle si important dans toute ma vie de connaissance. Il est donc important pour nous de nous poser la question, non pas d'un point de vue critique, mais d'un point de vue proprement de philosophie du vivant. Est-ce que je pourrais faire la critique de la connaissance sensible? C'est ce que Descartes fit tout de suite. Il l'a fait de façon tellement massive qu'il a rejeté la connaissance sensible. Si je réfléchis sur ma connaissance sensible, je peux distinguer différents moments dans ma connaissance sensible, dans le développement de ma connaissance sensible. Il y a d'abord mes cinq sensations. Je dis cinq d'une manière classique parce que certains distinguent six en mettant la connaissance tactile externe et interne. Vous pouvez avoir mal au ventre. Vous avez une connaissance tactile interne. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine connaissance tactile qui n'est pas purement externe. Et je prends d'une manière classique parce que je crois que ça n'avance pas à grand chose de faire cette distinction. J'ai mes cinq sens. C'est du reste très curieux. Pourquoi
5. Je constate, on est 5. Pas la peine de les énumérer, vous savez. J'élimine ta naissance. Caristate appelle le sens commun. Qui n'est pas du tout le sens commun tel que Descartes l'appelle. Le sensus communis. C'est la conscience que j'ai des rapports différents de mes sensations. Je peux faire certaines relations entre mes connaissances sensibles, mes sensations. C'est le sensus communis, ce sens commun. À partir de là, il peut y avoir une connaissance imaginative. La connaissance imaginative demeure une connaissance sensible. C'est les premières synthèses que je fais. Et c'est très important d'essayer de comprendre ce que c'est que la formation de l'image. L'image, elle se fait au niveau de ma connaissance imaginative. Sartre a beaucoup réfléchi là-dessus. Et il fait des petites remarques très intéressantes pour vous montrer que ce point de vue-là est très actuel. Sartre était très intéressé par la connaissance sensible et par la connaissance imaginative. Quand Sartre fait cette petite constatation, je regarde un immeuble, je ferme les yeux, je me représente ce que c'est que cet immeuble et j'essaie de compter le nombre de fenêtres qu'il y a. Je n'arrive pas. Évidemment, si vous avez compté avant, vous pourrez compter après. Mais si vous n'avez pas compté avant, simplement vous avez vu cet immeuble, oh, merveille. Vous fermez les yeux. Cherchez à compter le nombre de fenêtres. Vous n'y arrivez pas. Et c'est vrai, vous n'avez qu'à faire la petite expérience. Vous verrez, ne comptez pas avant. Et vous verrez que vous ne pouvez pas. Le passage de la sensation à l'image. Extrêmement intéressante. Parce que la psychanalyse, vous savez, s'intéresse beaucoup, du moins certains aspects de la psychanalyse, s'intéresse beaucoup aux rêves. Or, les rêves, c'est l'image. Vous êtes poursuivi par des images. Il y a des images qui vous hantent. Il y a des cauchemars, quoi. Les cauchemars, c'est être hanté par une image qui vous poursuit. Une image extrêmement dynamique, des manifestations qui vous poursuivent, qui vous englobent de toute façon, alors qu'ils vous prennent, qu'ils vous saisissent. Au contraire, un individu seul, on est poursuivi par des images, vos cauchemars, et puis vous avez la mémoire qui fait que vous vous rappelez certaines choses. Il y a tout un petit raisonnement. Et la connaissance sensible se termine par ce que les Arabes ont découvert et qu'Aristote n'avait pas découvert. Donc ça ne fait pas partie du dianima des Arabes, l'estimative et la cogitative. Et saint Thomas l'assume allègrement. Pour les animaux, c'est l'estimative, et pour les hommes, c'est la cogitative. La cogitative est encore partie de la connaissance sensible. Donc c'est un monde extrêmement vaste, la connaissance sensible, vous voyez. Vos cinq sensations. Tout le domaine du sens commun, c'est-à-dire des relations au niveau des sensibles. C'est vrai, ça. Parce que très souvent, il y a toute une part imaginative. Chez les artistes, on voit ça très fort. Qu'une sensation appelle une autre sensation. Il y a des relations entre les sensations. Puis l'imagination. Et puis la mémoire et la cogitative. Alors on ne peut pas tout voir. Je vais d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la connaissance sensible. C'est quand même très important. Ce qui est sûr, c'est que c'est la première connaissance fondamentale. La connaissance la plus fondamentale. Le passage de la connaissance végétative à la connaissance sensible. C'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a presque des intermédiaires entre deux. Il y a des plantes sensitives qui sont sensibles au soleil. Elles sont sensibles à la lumière. Elles se tournent vers la lumière. Il y a des gens qui sont sensibles à la lumière de la lune. Dans la vie végétative, qu'est-ce que c'est que cette sensibilité à la lumière? C'est pas la connaissance. C'est en dessous de la connaissance. Mais c'est une sensibilité très curieuse. Donc, c'est pas si dramatique que ça, hein, d'avoir le passage de la vie végétative à la connaissance sensible. Vous voyez, le philosophe ne s'inquiète pas trop de ça. Parce que le philosophe, il sait que c'est très difficile. Quand un problème est très difficile, on prend les expériences là où elles sont nettes. Et les franges, on y revient après. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la connaissance sensible. Pour la connaissance sensible, je la prends tout de suite dans nos deux connaissances sensibles les plus nettes. Le toucher et la vision. C'est le toucher et la vision qui sont les deux extrêmes de la sensation. Et qui sont deux types de sensations très différentes. Regardez le toucher d'un aveugle. Et vous verrez que, face à un aveugle, votre toucher est très grossier. C'est extraordinaire de voir comme chez un aveugle, le toucher s'est développé. Vous n'avez jamais de gens qui n'ont plus le toucher et qui n'auraient que la vue. Alors vous seriez le cyclope. Mais il n'existe pas. C'est un mythe. Des gens dont la vue s'est développée de façon extraordinaire. Et le sens, la sensation du toucher est liée à la vie. La vie réclame. Le toucher, c'est fondamental. De sorte que les vivants supérieurs impliquent toujours le toucher. On perdrait le sens du toucher. Je crois que ce serait très très grave. On a fait des expériences dans ce domaine-là, au Canada. On ne peut jamais arriver à complètement isoler un vivant. Un vivant, c'est-à-dire l'homme. Puisque l'animal, isoler la vache du toucher, c'est très difficile. Puis elle vous dira rien. Elle se mettra beugler. Beugler, ça veut dire rien du tout. Tandis que le vivant homme peut encore dire quelque chose. Alors on a fait des expériences. J'ai écouté des conférences là-dessus. Ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est intéressant d'essayer de voir si on peut séparer l'homme du toucher. Le mettre dans un climat de neutralité dans lequel le toucher ne s'exerce plus. Ça n'arrive jamais totalement, hein. Donc c'est arbitraire. Alors on a constaté, je ne sais plus les chiffres, mais que l'homme peut supporter un certain temps d'être coupé, comme coupé, je dis comme coupé, du milieu ambiant, comme s'il ne touchait rien. Et on a vu que la femme résistait plus longtemps que l'homme. On coupe, et puis on dit quand vous n'en pouvez plus, prenez sur un bouton. Il ne s'agit pas de devenir fou. Parce qu'on deviendrait peut-être fou. Je crois. S'il n'y avait plus du tout le toucher, je crois qu'on deviendrait fou. Parce que le toucher, c'est le sens du réalisme le plus fort. C'est pour ça qu'il faut garder un toucher très 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 fort. C'est le réalisme. La méthode Vito se montre bien. Vous touchez, vous sentir les choses, mais pas vous toucher. Et quand votre toucher devient un peu malade et que vous n'avez plus à toucher les choses, vous êtes en contact direct avec les choses, il y a quelque chose qui ne va plus. Vous perdez un sens d'un réalisme. Tant que vous n'avez pas touché, vous ne savez jamais si c'est tout à fait réel. Voyez savoir si. Avec les soucoupes volantes. J'ai suivi ça pendant tout un certain temps, ça m'intéressait pour voir s'il y avait imagination ou il y a peut-être une vision, je n'en sais rien. L'année dernière encore, alors en Belgique, on s'était perdu. Et tout d'un coup, on arrête des gens et on voit des gens complètement affolés. Ils avaient vu des soucoupes volantes. C'était le soir, la nuit, ils avaient vu des soucoupes volantes. Ils étaient complètement affolés. Alors ils étaient d'une gentillesse extraordinaire de rencontrer des gens qui n'étaient pas des martiens. Et ils étaient très très heureux parce que ça les calmait, vous voyez. Dans leur auto, ils étaient à deux seuls. Ils avaient vu ces coups sous pas, c'était complètement affolé, ils savaient pourquoi. Tout d'un coup, on y voit des gens qui... J'étais en plan, c'était martien descendu. Je me suis dit, tranquillisez-vous, je suis un être humain. Et comme je ne sais plus où je suis, alors on avait connaissance. On était en Belgique, on a pris un peu de pierre pour tout savoir. On était quand même sur la terre. Oui, le toucher, le goût. C'est des sens réalistes, ça. Très, très réalistes. La connaissance est faible. Mais il y a quelque chose de très particulier. C'est qu'on est lié à la réalité immédiate. Tandis qu'au contraire, le regard, la vision, c'est un soin, un sens qui est fait pour le volcan. Loin, 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 loin. Le regard du lion, l'horizon. L'horizon. C'est le sens de la lumière. C'est assez extraordinaire. Un sens très développé chez les Grecs. Les Grecs ont un sens de... Tandis qu'on dit que le peuple d'Israël, c'est surtout lui. C'est très curieux du reste de voir les cultures qui sont plus orientées vers le regard. La culture française est plus orientée vers le point de vue de la vision. La culture allemande plus vers lui. Il y a des cultures, vous savez, il y a des langues qui sont plus développées par le point de vue de lui. Et des cultures qui sont plus visuelles. Ça, c'est intéressant à voir parce que c'est comme ça qu'on découvre ce que représente ce contact direct, immédiat avec la réalité. On la touche. En la touchant, on est en contact direct. On la voit. On sait très bien que voir ne suffit pas pour dire nécessairement cela existe. C'est très curieux. Ça, c'est un point que la psychologie d'aujourd'hui a beaucoup développé. C'est que l'emprise imaginaire sur la vue se fait beaucoup plus facilement que sur le toucher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus facilement d'hallucinations d'ordre visuel. Ah, vous avez vu ça, mais est-ce que vous vraiment l'avez vu? Est-ce que c'est une hallucination? Et les hallucinations du toucher sont très très rares et très graves par le fait même. Quelqu'un qui commence à avoir des hallucinations du toucher, il perd contact complètement avec le réel. Tandis que la vue, c'est pas très grave. Après avoir bu quelques verres de vin, vous voyez comme des petits nuages qui passent pas très grave. L'ouïe est aussi un sens très différent. Puisque l'ouïe, c'est le contact avec la parole humaine. C'est le contact avec quelqu'un qui est capable de m'enseigner. C'est par où je suis éducable, par où j'ai le contact avec un autre. Les aveugles ont le toucher et l'ouïe. ça seul. Vous avez suffisamment de courage pour traverser la forêt seul. Avec suffisamment de prudence. Et vous entendez des tas de choses que vous n'entendez pas la journée. Parce que votre regard vous distrait. Vous voyez, il y a une distraction des sens par rapport les uns aux autres. Si vous êtes très visuel, vous entendez moins. Si vous êtes très auditif, vous voyez moins. Curieux, ça. On ne peut pas être tout entier attentif aux cinq sens en même temps. Le goût. Là aussi, le goût. Quand vous mangez quelque chose d'excellent, ça peut arriver. Vous êtes entièrement pris par ça. Et vous êtes beaucoup moins visuel et beaucoup moins auditif. C'est pour ça que dans les repas excellents, on peut avoir n'importe quelle conversation d'imbécile, ça n'a aucune espèce d'importance. Les gens sont pris par la qualité du mets. Quand, au contraire, vous mangez des choses très très mauvaises, vous êtes beaucoup plus capable d'écouter. C'est pour ça que dans les couvents, on fait des lectures, on met des mets qui sont pas très très bons pour qu'on puisse écouter. On n'est pas pris par le point de vue du goût. C'est curieux, ces choses-là, voyez. L'attention par rapport à quelque chose qui nous saisit, qui nous prend. Et puis l'odeur. L'odeur est un sens très particulier, très développé dans les pays moins contis, moins cultivés, c'est-à-dire moins sophistiqués, moins artificiels. L'odeur est un sens très primitif. Très primitif. Et c'est un sens aussi très lié à l'aliment. Dans les premiers traités de psychologie de Dumas, Dumas fait cette réflexion à un point de vue psychologique. Mettez un bandeau sur les yeux. Bouchez-vous le nez. Vous ne pourrez pas distinguer si c'est du café ou du thé. C'est très important, ça. Vous ne pouvez pas distinguer. Alors, quand vous dites ça aux amateurs de thé, juste c'est de la blague. On va faire l'expérience. Et vous voyez qu'en effet, l'odorat est un sens très attaché à l'aliment. Très. Et il est presque plus attaché à l'aliment que le goût. Ça, il faut savoir ça quand on est infirmier ou infirmière. Bouchez le nez des malades quand vous leur donnez quelque chose qui n'est pas très agréable pour le prendre très vite. Tandis que si vous laissez l'odorat, alors dès qu'il y a ça, le haut de cœur, il faut m'y rouler immédiatement. Papa, ne pas trop. Laissez l'odorat qui fait ça. L'odorat est une chose très curieuse. Alors oui, nous avons ces cinq contacts. C'est curieux. Pourquoi cinq? La philosophie du vivant constate. Pour savoir cinq, je crois qu'il faudrait un chemin de sagesse. Remonter jusqu'à la sagesse de Dieu. Puisque Dieu nous a créés. Et de fait, il a voulu que notre esprit soit lié aux cinq sens. Qu'il y ait ces cinq ouvertures vis-à-vis du monde physique dans lequel on est. Qu'il y ait ces cinq modalités. Vous voyez, c'est très beau d'avoir que tout de suite la connaissance est analogique. Elle est diverse et elle est une. C'est, je crois, cela qu'on pourra tout de suite dire dans une vision de sagesse. C'est que le contact que j'ai avec la même réalité n'est pas le même, n'est pas toujours le même. Je peux avoir un contact avec un chien, un chat, avec un être humain. Selon cinq modalités. Et immédiatement. La série. extraordinaire. C'est la même réalité. Mais cinq modalités. Vous voyez, quand on essaie de comprendre une œuvre d'art, on prend des perspectives différentes. On ne prend pas la seule et unique perspective. Quand je comprends la réalité, j'essaie de prendre ces contacts différents avec la réalité. Et la réalité se révèle à moi différemment par la vision, par le goût, par le toucher, par le l'ouïe. Et je tape sur moi, je ne comprends pas si c'est fait ou pas. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, ça me dit quelque chose. C'est pas rien. L'ouïe me fait connaître la flexibilité d'un métal ou fait connaître la lourdeur d'une chose. Les cinq sens me disent quelque chose d'immédiate sur la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette connaissance sensible hein, qui se donne à moi tout de suite dans la diversité? Et cependant, il y a quelque chose. Je crois que la connaissance sensible me donne ce contact immédiat à l'égard de ce que Aristote appelle les sensibles propres. Et je crois qu'on doit reprendre cette distinction aristotélicienne qui a été perdue avec Descartes et que les marxistes redécouvrent. Parce qu'ils sont aristotéliciens dans la base, du moins ils désirent l'être. Alors, dès que je regarde les cinq sens, je vois que la diversité des sens se donne par les sensibles propres. Autre chose, la lumière. C'est difficile de toucher la lumière. Pas commode de toucher la lumière. On peut subir un bombardement d'atomes, c'est pas la lumière. Vous avez le son. La voix. Vous avez le toucher. Les sensibles propres du toucher, le chaud et le froid. Vous avez le goût. C'est déjà beaucoup plus difficile le goût. Hein. Des choses épicées. Des choses qui vous brûlent. Dès que vous le prenez. Ou des choses acides, amères. Puis l'odorat. Et l'odorat, c'est aussi difficile à bien préciser. C'est curieux que c'est la vue qui est la plus diversifiée dans les sensibles propres. La couleur, c'est toute la gamme. Tandis que dans l'odorat, c'est beaucoup plus difficile. Chaque sens a son sensible propre. Comme un sommet, chaque sens. Et c'est très intéressant, faites cette petite recherche philosophique, de rechercher les sensibles propres et le sommet du sensible propre. Dans la vision, c'est facile, la lumière, tout le monde comprend ça. Dans le sensible propre, tu touches le chaud et le froid. C'est brûlant. Et ça ne doit pas être trop brûlant, parce que si c'est trop brûlant, vous ne sentez plus rien du tout. Vous brûlez la main, vous sentez boiter par un pire. C'est fini. La lumière aussi ne peut pas être trop violente. Et donc, il y a une harmonie à l'intérieur de toutes les sensations. Les sensations évitent les extrêmes. Et il y a un sommet. Pour chacun d'entre nous, c'est curieux, ça, du reste. À cause du corps, à cause de l'organe physique, qui fait qu'on ne peut pas aller trop loin. Les sensations impliquent donc un objet propre qui les distingue, les sensibles propres. Et à côté des sensibles propres, il y a ce qu'on appelle les sensibles communs. Et les sensibles désir, la grandeur, le nombre, le mouvement, le repos, la figure. Il y a 5 sensibles communs. Cherchez, il y en a d'autres. C'est Aristote qui dit ça. Faut le reconnaître. Platon n'a pas fait la distinction des sensibles propres et des sensibles communs. C'est Aristote qui fait cette distinction entre sensibles propres et sensibles communs. Les sensibles propres, c'est ceux qui sont saisis par un seul sens. Tandis que les sensibles communs sont saisis par plusieurs sens. Le mouvement, vous le voyez. Le mouvement, vous pouvez le sentir. Le mouvement, vous pouvez aussi le goûter. Quand vous avez un bonbon dans la bouche, vous le faites tourner. Il ne reste pas immobile. Donc, le goût vous donne aussi le sens du mouvement. Et l'odorat vous en donne le sens du mouvement. Ça, c'est très très net. Quand vous êtes poursuivi par une odeur extrêmement forte de gaz, vous filez à toute vitesse. Et quand il y a du vent qui transporte ça, c'est effrayant. En auto, quand vous traversez certains coins, de purification de l'essence, par dirigement agréable à l'odorat, enfin, vous savez très bien que si le vent s'y met, c'est plus difficile d'éviter. Sensible commun nous fait saisir le mouvement, le repos, la grandeur, le nombre et la figure, la figura. La figura, la figure, c'est la physionomie. C'est la manière d'être d'un être. C'est pas la figure, on l'entend de façon très rigoureuse. Ça, c'est les sensibles communs. Eh bien, toujours, dans toutes vos sensations, dans la sensation de la vision, vous voyez toujours que le sensible propre est saisi à travers un sensible commun. Le sensible commun conditionne le sensible propre. Et ça, je peux le saisir tout de suite. Voyez, autre chose est de boire une petite cuillère à café très chaude. Autre chose est d'avaler une grosse tasse de bouillon très chaude. De la quantité, la différence. Ça conditionne. Mais ça conditionne d'une façon remarquable. D'une façon telle, quelquefois, que le sensible propre est perdu. Situation limite du sensible propre. Lorsque le sensible commun devient tellement fort que le sensible propre est comme inondé dedans. Ça, c'est vrai. Il faut le constater. On peut le constater tous les jours, ça. Si vous êtes un tout petit peu éveillé, la philosophie nous demande d'être éveillés vis-à-vis de nos sensations. Donc, on comprend qu'il y a dans les sensations quelque chose de très important à saisir. Donc, la distinction de sensible propre et sensible commun, ce n'est pas une séparation. Je ne peux pas séparer les sensibles propres et sensibles communs. Ils sont toujours liés. Mais vous voyez la très grosse différence. Et ça décarte alors, mais ça en pleine lumière, décarte. Les sensibles propres ne sont pas objectifs, ils sont purement subjectifs. Les sensibles communs sont seuls objectifs parce qu'ils peuvent être mesurés. Alors ça, c'est très très important de se rappeler ça. Parce que ça, c'est la grosse erreur de Descartes. Et depuis Descartes, ça continue. Parce que les erreurs, il y a des traditions dans les erreurs. Plus puissante que dans la recherche de la vérité, c'est très curieux. Il n'y a rien de plus traditionnaliste que les gens qui sont dans l'erreur. C'est extraordinaire, ça. En politique, alors non, alors ça, on ne parle pas. Il n'y a rien de plus traditionnaliste. Mais c'est très intéressant. C'est très difficile de transmettre la vérité. Tandis que transmettre l'erreur, il n'y a aucune difficulté. Vous tombez toujours dans les mêmes carapaces. Vous tombez dans les carapaces, c'est le conditionnement. Pour sortir du conditionnement, il faut être très éveillé. Vous êtes très éveillé au regard. Et ça, l'artiste le sait. Le peintre est éveillé vis-à-vis des sensibles propres. Et c'est ça qu'il met en pleine lumière. Quand il est fatigué, il retombe dans les sensibles communs. Alors après, quand il revoit ça, il dit « Oh, c'est une croûte. » Parce que les sensibles communs, c'est les sensibles communs. L'artiste met en lumière les sensibles propres. C'est là où on voit que l'artiste, c'est l'homme des sensations. Et le philosophe s'intéresse beaucoup à ça. Surtout dans un monde qui est un monde scientifique où les sensibles propres sont laissés de côté. On ne les voit plus, les sensibles propres. On s'en intéresse plus. Parce qu'on prend le mesurable. Donc c'est les sensibles communs qui sont avant tout présents. Et alors, l'artiste met en lumière quelque chose que la science ne peut pas mettre en lumière. Poussons un peu plus l'analyse de la sensation. Quand je regarde le rouge d'une rose écarlate, qu'est-ce qui se passe? C'est très curieux. Il faut se plonger dans la vision de la chose. Il faut essayer de saisir cette vision. Ce rouge, je le touche, pas seulement avec mon toucher, mais je le touche avec mon œil. Et d'une certaine manière, je suis modifié, très difficile de bien préciser, par cette vision. C'est pour ça qu'on dira quel mauvais œil.
Je suis modifié par la vision, et la vision pourrait à la rigueur modifier. Je suis transformé par les couleurs. Je suis transformé par les sensibles propres. Et c'est pour ça qu'on dira que tout de suite, la sensation, c'est recevoir une détermination, une forme. Eidos, une forme. Une forme qui n'est pas la mienne. Quand je regarde l'écarlate d'une rose, c'est quelque chose qui n'est pas de moi. Je suis modifié par cette écarlate. J'ai la sensation de ce rouge. Et je saisis ce rouge comme lorsque je touche quelque chose de chaud, surtout quand j'ai très froid. Je suis donc modifié par ces formes. On dira intentionnel. Nous reviendrons sur l'intentionnalité. Intentionnalité sensible. Je reçois une forme. Ce sensible propre. Et je suis transformé par ce sensible propre. J'en vis. Ma sensation me fait vivre. C'est pour cela que le vieux philosophe dit « j'aime voir ». C'est très beau ça. J'aime voir. Et c'est vrai, quand on est très vivant, on aime voir. On aime entendre. Il y a quelque chose qui nous saisit. Notre vie se manifeste à travers ces sensations. Si nous vivons de ces sensations très douces, de ces sensations fortes, nous sommes pris par cela. Nous sommes en contact avec quelque chose qui n'est pas nous et qui nous réveille. La sensation implique ce fait de bâtir. On reçoit quelque chose qui n'est pas nous. Et on réagit. Et on vit de cela. On vibre. Je dis bien qu'on vibre. À telle couleur étonnante. Quand vous regardez un ciel qui subitement s'illumine. Mais vous vibrez à cela. Vous êtes pris. Vous êtes saisi par cela. Alors je sais très bien qu'il y a beaucoup plus que la sensation, surtout si on est artiste, c'est l'intelligence qui est là présente,
Mais c'est quand même la sensation. Si vous supprimez cette sensation, vous n'auriez plus ça. Alors, pour moi, en tant qu'homme, mes sensations ne sont jamais à l'état pur. Il faut être très attentif pour essayer d'avoir une sensation à l'état pur. Je ne l'ai jamais, du reste. Mais on peut quand même être attentif à la sensation du toucher, la sensation de la vue, la sensation de l'ouïe, écouter un son, s'habituer à écouter un son, à sentir. On développe ses sens par là. Et c'est un contact avec la réalité extérieure. Et toujours, c'est comme un toucher. C'est vrai que toutes nos sensations sont comme un toucher. Et toutes nos sensations impliquent au sommet une vision. Alors la vision, ce n'est plus un toucher, c'est un toucher lointain. Quand vous voyez quelque chose de très beau, vous êtes comme attiré et vous voudriez le toucher. C'est très curieux, ce qui explique comment le gosse, quand il voit dans un lac des fleurs étonnantes, il désire aller les prendre et sa mère est là pour la tête. Parce qu'il est saisi pour ça. Il désire toucher. C'est curieux, ça. Il y a cette connexion entre les sens qui fait que je deviens le rouge. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Le rouge de la fleur. Alors quand on me dit « Oh, c'est purement subjectif ben, », non. À côté de moi, celui qui a une mentalité totalement différente de la mienne, il se dit quand même aussi que c'est rouge. C'est pas conventionnel. Il y a quelque chose mystérieux. Je me souviens, dans une discussion avec des psychanalystes qui soutenaient que nos sensations étaient purement subjectives. Tout d'un coup, c'était dans un endroit très beau. On peut toujours choisir de très beaux endroits quand on discute. Au point de vue psychanalytique, ça repose. Tout d'un coup, s'approche de nous un petit écureuil. Il était très beau. Très séduisant. Alors c'est tous. Il y a eu un silence. On a regardé l'écureuil.
Oh, c'est purement subjectif. Je suis cartésien, que voulez-vous? Le rouge et le prospectif. Mais non. Il y a une objectivité. Que ce soit très difficile de savoir ce que c'est. Ah, je suis d'accord. Parce que vous ne pouvez pas analyser les sensibles propres. Vous ne pouvez les analyser qu'à partir des sensibles communs. Et c'est pour ça que les sensibles propres seront toujours quelque chose qui ne sera saisi, comme j'allais dire, intuitivement, par ma sensation même. Mais ça échappe à l'analyse. C'est merveilleux, du reste, hein, de voir que les sensibles propres ont quelque chose d'indivisible. Ça me touche. C'est ce qu'il y a de plus acte dans le domaine sensible. Et c'est la lumière qui est la chose la plus en acte dans tout le domaine sensible. Donc, la sensation, c'est une connaissance qui me permet de devenir quelque chose qui n'est pas moi, de le sentir, de le porter en moi, intentionnellement. Quand je sens l'odeur des bons petits pains chauds le matin avant d'avoir pris mon petit déjeuner, je comprends très bien que l'odorat me met en contact avec quelque chose de très agréable. Un petit pain qui sort du boulanger tout chaud. Mais je sais très bien que c'est uniquement une connaissance sensible, que ce n'est pas la réalité. Vous voyez, je fais la distinction entre les deux. Il y a une réalité derrière, mais le sentir, c'est pas la même chose que de le manger. Vous voyez, prenez vos petits déjeuners intentionnellement. Je crois que c'est extrêmement pratique au point de vue économique. Et ça vous nourrit merveilleusement, esthétiquement. Et au bout d'un certain temps, vous êtes obligé de voir que se nourrir d'intentionnalité, ça ne va pas très loin. On peut faire ça une expérience un jour. Un jour, c'est bon de le faire, c'est excellent. De rester longtemps à la porte d'une boulangerie. Je me souviens un jour, j'étais en panne comme ça. Je l'ai fait, parce que j'ai pas la possibilité de faire autrement. Je me suis dit, je peux nourrir de cet instant. Alors, au bout d'un certain temps, le boulanger a regardé un curé qui fait ça. Qu'est-ce que c'est que ce curé? Alors, il m'a dit, et vous voulez un petit pain? Je lui ai dit, oh oui. Alors, le petit pain était donné. Mais vous voyez, grâce à l'intentionnalité, la réalité est venue par derrière. J'aurais passé rapidement, ça n'aurait pas fait ça. Mais grâce à l'intentionnalité, je veux dire, comme ils sentent bon, vos petits pains. Je dis ça, c'est merveilleux. Vous vivez dans cette odeur des petits pains. C'est extraordinaire. Vous n'avez plus faim du tout après. On va dire, oh, quand même, oui, oui. Ah, je croyais que ça pourrait enlever votre faim. C'est comme celui qui fait la cuisine, la sauce. Au bout d'un certain temps, ça lui enlève l'appétit. Enfin, il a tellement humé ça, tellement plein envie. C'est curieux. L'intentionnalité sensible, la connaissance sensible, mais en présence de ce domaine nouveau au plan philosophique et l'intentionnalité. Et la connaissance sensible est une connaissance qui bâtit. Je passe tout de suite à l'imagination. La connaissance imaginative. Il y a le sens commun entre deux, mais je ne m'attarde pas. L'imagination. Ce qui est très curieux dans l'imagination, c'est que c'est la première connaissance synthétique. L'imagination fait des synthèses dans les images. Les images sont toujours des synthèses. Et ce qui est très curieux dans l'image, c'est qu'il y a un renversement des sensibles propres et des sensibles communs. Un renversement. Dans l'imagination, les sensibles communs sont premiers et les sensibles propres sont seconds. Et quelqu'un qui était très calé dans l'analyse des rêves, au point de vue psychanalytique, me disait que plus on est fatigué, plus les sensibles communs prennent de la place. Et quand on est moins fatigué, les sensibles propres reprennent leur place. Et pour lui, en tant que psychanalyste, c'était le signe qu'on était vers la guérison. Quand dans les rêves, les sensibles propres sont plus importants. Je ne sais pas si c'est tout à fait exact, mais c'est intéressant comme remarque. Vous aurez moins à se poser la question. Il ne faut pas faire toujours attention à ses rêves. Mais c'est quand même intéressant, quand vous avez un cauchemar, de vous dire la place du sensible commun. Oui, le gros cauchemar habituel. On est ligoté. Et puis il y a des gros chiens qui viennent. Ou des loups. Ou si on est plus dans des tanks pendant la guerre. On est ligoté. On ne peut pas bouger. Oui, on est ligoté. Le repos. On ne voit pas la figure. Mais on est ligoté. Sensible commun. Et puis les autres qui viennent en grande masse. En quantité énorme. Sensible commun. La multitude contre l'un. Le mouvement et le repos. Alors ça, c'est le tragique. Tout tragique du drame, de toute espèce de cauchemar, parce que les cauchemars sont toujours tragiques. C'est toujours cette tension entre l'un et le multiple. Et la masse. Le repos et le mouvement. Et les perspectives, les figures et les sensibles propres sont ce monde. Alors ça, c'est très intéressant de comprendre ça. Parce que ça nous fait saisir comment l'imagination, à l'imagination, il faudrait revenir longtemps sur l'imagination, ça vaudrait le coup. Parce que c'est un domaine qui est très important et qu'on a très peu étudié au point de vue philosophique. Quand vous regardez au point de vue philosophique, quels sont les philosophes qui ont regardé l'imagination, vous en voyez très peu. Le premier qui a étudié l'imagination, c'est Aristote. Ça, il faut le reconnaître. C'est le premier. Après, les théologiens n'ont pas développé beaucoup l'imagination. Les spirituels sont très attentifs à l'imaginaire. Très, très attentifs. Les peintres sont très attentifs. Les peintres, les artistes sont très attentifs à l'imaginaire. Vous retrouvez ça dans Bergson, par exemple, l'imagination créatrice, parce que c'est à l'intérieur de l'imaginaire, lié à l'intelligence, qu'il y a une espèce de créativité. C'est le lieu de la créativité, l'imaginaire. Pourquoi tout ça? Pourquoi l'imagination, c'est la première synthèse? C'est justement qu'il y a un renversement des sensibles propres et des sensibles communs. Les sensibles communs, puisqu'ils sont mesurables, peuvent s'additionner. Alors vous pouvez faire des synthèses. Tandis que les sensibles propres sont indivisibles, ils ne s'additionnent pas. Et donc la synthèse se fait toujours de façon quantitative. Le propre des synthèses. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux esprits trop synthétiques. Quand on brasse les synthèses, alors ça, c'est très intéressant pour comprendre la pensée dialectique. De comprendre que la pensée dialectique est possible au niveau des sensibles communs. Au niveau des sensibles communs, il y a une opposition, puis il y a quelque chose qui ressort de cette opposition. Tandis qu'au contraire, une pensée analogique repose sur les sensibles propres. Elle est qualitative. C'est pour ça que ce passage des sensations de nos cinq sensations à l'imagination est quelque chose de capital à saisir au point de vue de la connaissance. Les sensations mettent en pleine lumière, je dis bien mettent en pleine lumière, les sensibles propres dans leur indivisibilité et donc dans leur diversité, le pointillé des sensibles propres. C'est quelque chose de très très spécial. Et alors l'unité ne peut se faire que d'une manière très spéciale. C'est l'imagination, ça. L'imagination fait ses synthèses au niveau des sensibles communs. C'est les sensibles communs qui permettent la synthèse, qui permettent aussi le mouvement. Oui, vous retrouverez ça très très fort dans le cinéma. À la différence des grands arts classiques. Voyez, le drame et le roman, le cinéma et les grands arts classiques, c'est le sensible commun qui l'emporte et qui fait le point de vue du mouvement. Dans le cinéma, le mouvement joue un rôle capital, extrêmement important. La rapidité des faits, c'est extraordinaire. Alors, qu'il y ait des sensibles propres, c'est bien évident. Un très grand film se manifestera par la qualité de ses sensibles propres. Mais le film courant habituel, c'est ça. Parce que c'est comme pour le roman, où le point de vue des sensibles communs reprennent une très grande place. C'est très intéressant d'analyser, vous voyez, ce passage des sensations et de l'imagination. Et de comprendre que l'imagination forme des images. Avec l'image, vous avez un nouveau type de connaissance. Vous avez une connaissance représentative. La sensation comme telle ne représente rien. Quand vous touchez quelque chose de chaud, la chaleur, qu'est-ce que ça représente? Rien du tout. La lumière, qu'est-ce que ça représente? Rien du tout. Le son, qu'est-ce que ça représente? Rien du tout. La représentation et l'expression qui est liée à la représentation apparaît avec l'imagination, avec l'image, l'icône. En grec, c'est l'icône, l'image. Et l'imagination, c'est la fantasia. C'est la fantasia, là. Cette faculté que nous portons en nous, qui fait qu'on a de la fantaisie. Avoir de l'imagination, c'est avoir de la fantaisie. L'imagination pousse toujours à la nouveauté. Alors que la sensation est réceptive. La sensation me donne un sens de la réceptivité. Je suis dépendant du réel que je regarde. Et je suis dans cette attitude de réceptivité quand je sens quelque chose. Je bâtis. Je suis dans l'attitude de réceptivité. Tandis qu'au contraire, dans l'imagination, je suis dans l'attitude de celui qui se meut. C'est celui qui se meut, l'imaginaire. Et il est tout le temps en mouvement. Il a un grand sens du mouvement. Un grand sens de la quantité, du multiple. C'est tout à fait différent comme connaissance. La connaissance de l'imagination. Elle représente qu'on crée quelque chose. On réalise quelque chose de nouveau. Et on comprend très bien comment l'imagination veut réaliser quelque chose de nouveau. Parce que, par définition, la quantité, c'est commun. Et donc, il faut, par l'accumulation, par le mouvement, la rapidité, créer quelque chose de nouveau. Tandis que les sensibles propres sont par eux-mêmes originaux. C'est aussi très important pour voir la différence du génie sensible lié à la sensation et celui qui est lié à l'imagination. L'imagination qui est dans le domaine des sensibles communs et dans le domaine du mouvement. Et donc elle est très liée dimension sensible qu'il ne découvre plus. Le conditionnement du temps, c'est la mémoire. Je suis un être qui s'est développé dans le temps. Alors rappelez-vous le premier moment de votre mémoire jusqu'à maintenant et le rapport entre l'imaginaire ou l'imagination et la réminiscence, le fait de la mémoire et le fait de se rappeler certains événements, on doit les ordonner dans le temps. Et c'est l'ordre dans le temps qui me permet de dire ça. Le conditionnement du temps est une certaine connaissance sensible qui met un événement après un autre événement. Pas comme je te pousse, hein. Puis on s'écarte. Un clou chasse autre clou. C'est ça le propre du mouvement. Vous voyez, de la mémoire. C'est qu'une image très forte empêche de me rappeler d'autres images qui sont plus lointaines. Et il y a une connexion entre toutes ces images. C'est très curieux. La manière dont on enregistre tout ça. Toute la connaissance sensible implique toujours un organe sensible. Et ça, on le constate avec des lésions. Parce que quand ça va bien, on le voit pas. Sauf quand on se fatigue les yeux. Se fatiguer la langue, c'est plus difficile. Mais quand on se fatigue les yeux, quand on l'ouïe devient brûlant, c'est très curieux. Et au contraire, les vieillards aiment davantage le sucre. Peut-être c'est l'usure de la langue. Les gourmets. Mais on dit que les vieillards sont très gourmets. C'est curieux. Alors il n'y aurait pas d'usure de la langue. Il n'y aurait pas d'usure de goût. Alors qu'il y a une usure très, très nette de l'ouïe. C'est très rare des vieillards qui ont un ouïe encore d'une façon extraordinaire. C'est remarquable de voir ça. Ordinairement, il y a une usure, comme pour la vue. Il n'y a pas d'usure du toucher. Normalement, il n'y a pas d'usure. Il y a une espèce d'affinité, même de finesse du toucher qui se fait plus grande. Parce qu'on est peut-être plus attentif et peut-être parce que justement l'ouïe tend à diminuer, du moins l'ouïe et la vision tend à diminuer. On est plus attentif au toucher. Parce que notre capital d'attention au niveau sensible est limité. Alors si un sens baisse, les autres se rattrapent. Et c'est peut-être à cause de ça que chez le vieillard, le toucher et le goût prennent une intensité plus grande. Parce que la vision et l'ouïe disparaissent, tendent à diminuer. Parce que de fait, tout le domaine de la sensation, tout le domaine de la connaissance sensible implique toujours une incarnation, c'est-à-dire un organe sensible, physique, biologique, qu'on peut étudier, qu'on peut mesurer, dont on peut analyser exactement au plan chimique les différents aspects par où il est susceptible de recevoir telle ou telle détermination.